Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Je parlais pas pendant que j'étais en avant de ça. Hein? Je m'en venais, puis mon frère Adama m'a pris par le bras et dit « On va prier. Okay. » On est prêt. Êtes-vous prêt?
Oui.
OK. Êtes-vous sûr?
Oui.
Bon. Donc, ce matin, comme vous pouvez voir, on va parler un peu d'une histoire qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 14. 1 Samuel, chapitre 14. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, le verset 1 à 23. Et ce matin, un peu, j'aimerais simplement apporter l'idée que parfois, dans nos vies, on a une idée, on a un plan et on aimerait faire bouger les choses, faire que quelque chose arrive. Et là, je parle, pour moi, c'est spirituel. On aimerait qu'il se passe quelque chose dans notre vie. On aimerait que Dieu agisse, soit dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi. J'aimerais qu'il se passe quelque chose peut-être dans l'Église, dans l'évangélisation, de ma famille. Et là, on se pose des questions. Et parfois, on a un zèle qui est difficile. Et OK. Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on regarde l'histoire de Jonathan. Je suis vraiment désolé. J'aimerais qu'on regarde l'histoire de Jonathan. Comment son zèle dans cette histoire-là a changé l'état d'esprit d'un peuple au complet? J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment son choix personnel, son désir de voir Dieu agir par lui, par l'intermédiaire d'un homme qui a la foi en Dieu, comment son désir de voir la main de Dieu agir à travers lui a changé tout. Et vous allez voir, on va passer à travers le thème, on a un peuple qui est brisé, qui est comme un peu caché, qui se découvre un roi qu'il ne connaît pas trop, qui sont cachés dans des montagnes, qui sont en servitude. T'as une gang qui ont trouvé le roi et là, ils se cherchent, mais ils connaissent les promesses de Dieu. Ils savent que Dieu veut les délivrer, puis il va les délivrer par sa main puissante. Mais comment est-ce qu'on fait bouger les choses? Donc, dans nos vies, et un zèle intense, c'est quelque chose qu'on recherche. Et j'aimerais vous parler, pour moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est assez intense d'habitude. Et j'aimerais vous parler d'un groupe de musique et d'une personne qui est dans un groupe de musique parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la musique heavy, metal, etc., mais moi, oui, j'aime ça, j'en écoute beaucoup. Les meilleurs groupes chrétiens que je connais sont des groupes heavy metal. Croyez-moi pas, je vous montrerai les paroles. Et c'est un groupe et une personne dans un groupe qui a dit « Je vais prendre ce que j'aime, ce que je suis. » J'ai un talent pour la musique, mais dans un peuple, dans un monde qui est noir. Mais pas juste noir, qui est contre Dieu, qui va chanter « Abat Dieu, on le déteste ». Il dit « Je vais prendre un peuple comme ça et moi, je vais représenter Christ à travers ça ». Des gens qui sont délaissés par la société, qui sont regardés comme « Ah, oh, regarde-lui, c'est un crotté, c'est un poêle, c'est un tout croche ». Tu sais? Et il dit, je vais aller là, je vais avoir un groupe de musique avec des frères dans le Seigneur. On va s'asseoir tous les jours ensemble en tant que groupe. On va avoir un temps dans la parole. On va s'encourager. On va prier pour les gens qu'on va voir dans le show ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre la parole. On va donner notre témoignage. On va s'encourager. Et puis, après le show, on va descendre. On va aller parler avec les gens. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il y a des gens qui ont entendu parler du Seigneur. Des gens qui peut-être n'en avaient rien à faire dans leur vie. Ils ont entendu parler du Seigneur, mais pas juste ça. Il y a plein de témoignages, ils ont écrit un livre et il parle à un moment donné, il dit, je sors du show. Et pendant qu'on faisait notre musique, il y a quelqu'un qui a crié « Bouh, pourri, on veut pas de ton Dieu », puis qui a tiré une bière d'en face. Fait qu'il dit « Moi, je sors de mon show. Je suis habillé parce que je viens de faire un show de métal, je suis tout tremble, j'ai chaud, puis je sens la bière. Est-ce que je suis un évangéliste? Est-ce que vous m'inviteriez dans votre église à aller prêcher en avant? » Il dit « Peut-être pas. » Mais quelqu'un qui vit dans ce monde-là, lui va venir me voir. Il va me parler. « Hey, ça m'a touché. » Et sa vie va être transformée. Et il y a plusieurs points comme ça qui sont arrivés. Et c'est un exemple que je veux donner pour vous donner une image que le zèle que Dieu vous donne par son esprit va aller avec vos intérêts, va aller avec vous, mais aussi que le zèle peut changer les choses autour de vous. Ça va changer vous premièrement, mais peut-être aussi des gens autour de vous. Il va peut-être se passer quelque chose et que vous ne saurez pas trop pourquoi, mais le Seigneur va agir, changer les cœurs, motiver des gens, faire bouger les choses, et là, vous allez être tellement béni. Et vous n'aurez aucune autre raison, aucune autre façon de l'exprimer que de dire « L'Éternel m'a béni. » Gloire à Dieu. Et on va regarder le zèle de Jonathan. J'ai rien pour avancer un petit peu, mais on va regarder certains points ensemble. On va regarder un peu comment Jonathan avait son zèle. Et je veux regarder quatre points avec vous. Premièrement, il y avait une certaine connaissance de Dieu qui lui donnait une confiance. Il y avait aussi, vous pouvez mettre les trois aussi, là. Il a aussi demandé à Dieu de lui montrer, est-ce que je vais de l'avant avec ça, merci Adama, ou non. Ensuite, il y a eu une marche, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut agir. Et ensuite, il y a eu des répercussions. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cet ordre-là. Mais juste avant, on va regarder si ça fonctionne. On va regarder on est où. Parce que si je vous dis 1 Samuel 14, tout le monde sait on est où dans l'histoire? Non? OK. Donc, 1 Samuel, ça vient après le livre de Ruth. Avant le livre de Ruth, il y a Juges. Donc, dans le temps des Juges, il y avait un cycle qu'on connaît très bien. Le peuple était avec Dieu. À un moment donné, le peuple désobéit. Le Seigneur envoie un peuple. Le peuple les met dans la servitude, le peuple se repentit, crie à Dieu. Dieu envoie un juge, le juge délivre le peuple suit l'Éternel, le peuple se rebelle. On fait un beau cercle comme ça et c'est merveilleux. Non, pas du tout. Mais on est à la fin de ça et Samuel étant le dernier juge, et là finalement, le peuple demande un roi, l'Éternel leur donne Saül. Et là, Saül commence à rassembler Israël sous une bannière. Un peuple. Et il essaie de les rassembler. Il essaie de les délivrer des Philistins. Il essaie de leur donner vraiment une terre à eux, une sécurité, un leader. Et on est dans ce point-là. Saül est en train de rassembler son armée. Il se prépare à la guerre. Il a déjà eu des victoires, mais là, il faut que ça débloque. Et là, on arrive à 1 Samuel 14 avec deux peuples. OK. On a les Israélites qui, eux, vous allez le voir dans le texte, il y en a une gang avec Saül. Il y en a qui ont accepté de se rendre aux Philistins, puis ils travaillent dans les champs. Ils sont comme serviteurs ou employés. Ou tu sais, ils vivent là, ils ont accepté le fait, bon, regardez, on est sous les Philistins, on n'est pas délivrés encore. Et il y en a qui sont cachés dans les montagnes parce qu'ils sont comme en rébellion. Ils sont pas encore au courant s'il y a le roi, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, on a vraiment les Israélites qui sont un peu partout, qui, la plupart, doivent connaître les promesses de Dieu, que Dieu va les délivrer, leur donner un peuple, mais ils ne sont pas tellement pépés, comme on dit en bon français. Ils ne sont pas dedans. Et là, on a le deuxième peuple qui est les Philistins. Eux, ils ont battu Israël, ils ont pris des territoires qui ne sont pas à eux, sont contents, sont bien, sont en paix. Et vous allez voir, la façon qu'ils décrivent le peuple d'Israël, c'est « Ah, oh, les chiens, les peureux sont finalement sortis de leur trou. » Moi, si quelqu'un me disait « T'es sorti de ton trou », c'est parce que ça n'allait pas bien, mon affaire. Donc, finalement, ils sont sortis de leur trou. Donc, ils sont vraiment en pleine confiance qu'Israël est un peuple détruit, qui ne valent rien, puis que c'est même pas une menace. Donc, avec cette image-là, on arrive à l'histoire de Jonathan. Jonathan, c'est qui?
Vous n'avez pas l'air sûr.
Jonathan est le fils de Saül. Saül qui est le roi. Ça fait combien de temps que Saül est roi? Ça fait pas tant longtemps. Et là, il prépare une croisade. Et lui, en étant un fils du roi, il est important. Il va motiver les troupes. Si je m'en vais à la guerre puis que le fils du roi est avec moi, bon, j'ai une bonne chance d'avoir des bonnes nouvelles, des bonnes idées, puis que si on est dans le trouble, on va recevoir du backup. Normalement, le roi ne laisse pas mourir son fils. Mais là, Jonathan est animé d'un zèle. Et c'est le point que je veux qu'on regarde ensemble ce matin. Un zèle intelligent malgré sa folie. C'est un zèle intelligent, mais un plan de zouf. Parce que j'ai aucun autre mot pour le dire. Donc, on va le lire, mais parfois on se perd dans la lecture, puis je ne l'ai pas affiché, parce que 23 versets affichés, pourquoi pas, vous avez toute une Bible, j'espère. Sinon, suivez sur votre voisin. Mais en gros, ce qu'il dit, regarde, avec la personne qui porte ses armes, ils sont deux, il dit, viens, montrons-nous, et s'ils nous disent montez, ben, le Seigneur nous donne la victoire, on les tue toutes. S'il nous dit, attendez qu'on descende, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça, on va s'en aller. Et il se présente. Puis après ça, le Seigneur leur donne un signe. Donc on va lire ensemble. 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Geba, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes, toute une armée. Achija, fils d'Ishitob, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'épode. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmaf et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. » On va arrêter là. Quel plan ingénieux. Hein, militairement parlant, là. OK, on sort puis on fait, « Hey, on est là! Salut! C'est nous! » Israël, on est deux. Venez vous battre. Mais regardez, ce que je veux faire souligner ici, premier point, la confiance en Dieu qui est animée d'une connaissance de Dieu. L'Éternel agira-t-il pour nous? Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Est-ce que Dieu a besoin d'une armée pour gagner? Est-ce que Dieu avait besoin d'une armée pour détruire Jéricho? Non. Est-ce que Dieu avait besoin d'une armée pour ouvrir la mer Rouge puis détruire l'armée des Égyptiens? Non. Est-ce que Dieu avait besoin d'une armée pour battre l'armée qui était contre Gédéon? Non. Est-ce que Dieu avait besoin de Jonathan? Pas nécessairement. Mais Jonathan avait besoin de Dieu. Et Jonathan savait que Dieu allait agir pour lui. Jonathan connaissait son Dieu. Il savait que Dieu a promis de délivrer Israël de la main des Philistins. C'est sa job. C'est son appel. C'est toute sa vie. En tant que fils du roi, si Saül est roi, et que c'est sa job de délivrer Israël des Philistins. Si Saül ne le fait pas, ça va être sa job. Et c'est son rôle, protéger, conquérir les bouts de terre qui avaient été pris, donner au peuple le pays promis. Et dit, qu'est-ce qui empêche l'Éternel de nous sauver? On va se faire un plan. On va se montrer à l'ennemi. Vous savez, il n'y a jamais personne qui se fait tirer dessus caché. Si vous ne sortez pas vous battre, si vous ne vous présentez pas prêt à vous battre, c'est bien rare qu'on se fait tirer dessus. Si on reste chez nous. C'est extrêmement rare aussi que l'Éternel va délivrer un peuple par quelqu'un qui est caché, qui est invisible, qui n'est pas témoin, qui n'est pas qui n'est pas au combat. Et c'est très rare que l'Éternel va agir par quelqu'un qui se pense au combat, mais qui dort. Quelqu'un qui est capable de mettre son armure toute comme il faut, qui est toute shiny, qui est toute propre, qui est toute belle, mais qu'elle n'a jamais servi. Ça ne sert pas à grand-chose. Et Jonathan se met dans une situation comme ça. Donc, 1 Samuel 14, « Poussons jusqu'au camp. » Ça veut dire on va se montrer. « Voyons si l'Éternel nous donne la victoire. » Pas « On va se battre, puis mid-fight, là, au milieu du combat, si ça va bien, on va comprendre qu'on a gagné. » Non, non. Si l'Éternel nous donne la victoire, sans combat encore, on s'est pas battu, on s'est juste montré, salut, on est deux, puis on veut se battre. Tu sais. Si l'Éternel nous donne la victoire, on a gagné. Puis marchons. Marchons. Let's go. On y va. Ils ont eu peur. On continue au verset 9. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Il a confiance en Dieu, il connaissait l'Éternel, il a voulu voir la délivrance de Dieu par sa main. Et là, il a fait un test, il a demandé un signe devant témoin, il n'est pas tout seul avec Dieu. Prenez un point, là, il n'est pas tout seul. Il a son bras droit, le gars qui tient ses armes. Ça, c'est important de comprendre ce point-là. Il ne va pas se battre tout seul. Même s'il a un plan très intelligent, il ne part pas tout seul. Il n'intercède pas devant l'Éternel seul. Il a son écuyer qui tient son épée, qui peu importe où lui va aller, lui il suit. J'ai un plan. OK. Fin. Mais il intercède. Il demande un signe à Dieu devant témoin. Les deux sont d'accord. Il n'y a pas une discussion à avoir. On se montre. S'ils nous appellent, on monte. S'ils nous disent de rester là, on ne monte pas. OK. C'est beau. Pensez-vous que lui, il ne connaît rien à Dieu. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Puis il fait juste suivre Jonathan comme « Cool, on s'en va. » Oui, non? OK. Ils sont deux. Et c'est un point que je veux faire ressortir. Ils sont deux. Ils sont deux qui sont prêts. Ils sont deux qui espèrent en l'Éternel. Ils s'attendent à Dieu. Ils veulent voir une délivrance. Ils veulent un plan. Et là, ils font un plan. Ils se font tout un plan, comme je vous l'ai dit. Et là, ils s'attendent à Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils veulent voir Dieu. Et là, la marche. Regardez bien les deux points qu'il y a là. Parce que pourquoi je les marque, ce n'est pas des gros points. Ce n'est pas des points compliqués. Mais c'est là que la plupart des croyants, on arrête. On est capable de connaître Dieu, on est capable de se faire un plan, puis là, l'Éternel nous répond, puis on fait comme, ouf, non, non, pas prêt. Non, non, je ne suis pas prêt. J'ai ça à régler dans ma vie. Ah, j'ai tel péché dans ma vie qu'il faut que je continue. Il faut que je m'en occupe avant. Et il faudrait que je change telle affaire dans ma vie. Il faudrait que peut-être que... Ah non, non, je ne suis pas prêt. Non, non, quelqu'un d'autre va le faire. Il faudrait que je demande aux anciens. Non, non, c'est pas moi. Là. L'Éternel ne peut pas agir comme ça à travers moi. Il faudrait que je demande à lui, il a l'affaire. Lui va le faire à ma place. Ah, c'est une bonne, j'ai une super bonne idée. On devrait faire ça. Mais pas moi, lui. Moi, je suis gêné. Ah, lui, il n'est pas gêné. Non. On va se montrer. S'ils nous disent monte, on monte. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Je vous donne des cues, je le dis depuis le début. Non. C'est pas une bonne idée du tout. Un poste des Philistins. Donc, en gros, un poste, si vous ne savez pas c'est quoi dans ce temps-là, c'est un poste avancé, c'est un endroit, une tour de garde. Si vous regardez, là, c'est pas un château, mais c'est une tour. Il y a des gardes. Et ça, ça garde probablement des champs. Ça garde probablement quelque chose entre cette tour de garde-là et une vraie ville. OK? Donc, ça, normalement, c'est ça watch, excusez, ça surveille. Hein? Ça surveille les alentours, voir que il n'y a pas un peuple qui vient les attaquer. S'il y a un peuple qui vient les attaquer, sonne la cloche, appelle le village, tout le monde est prêt, puis on s'en vient. Là, on a une tour de garde. Normalement, il y a une vingtaine, trentaine de gardes prêts à se battre au cas où il arrive quelque chose, ils vont tenir le coup. Et là, il y a deux oufs. Je vais les appeler comme ça. Parce que c'est pas un bon plan. Si t'es un Philistin, là, c'est drôle. Si t'es un Philistin, là, c'est vraiment pas une bonne idée. T'es dans ta tour. T'es armé, t'attends juste ça. Deux tapons qui se présentent comme cible. Tu peux tirer dessus, tu peux les faire prisonniers, tu peux les faire tes esclaves, tu peux les tuer. Ça doit faire des mois que tu t'ennuies dans ta tour. Hey, deux tapons, yes! Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan. Ah, regardez, excuse. Les Philistins disent au verset 11, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Ah, ils sont fins. Regarde les Hébreux qui sortent de leurs trous. On va avoir du fun. Hé, hey, montez, gang! Venez nous voir! Montez vers nous, nous vous ferons savoir quelque chose. Oui, bon point. Jonathan dit donc à celui qui portait ses armes, « Montons, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Voyez-vous, il dit, tu sais, le peuple, là, voyez la mentalité qu'il y a là. Les Philistins voient deux Israélites. Ils sortent de leur trou. Venez-vous-en, on va avoir du fun. Jonathan fait comme, hey, Dieu nous donne la victoire, on fonce. Ça vous donne pas des frissons? Moi, ça me donne des frissons. Ouh, c'est peut-être parce que l'air climatisé, là, mais ça me donne des frissons parce que il y a un plan, il y a une idée, il veut voir Dieu. Il y a un peuple qui est dans la servitude, qui est pris avec un ennemi qui les oppresse, qui a des taxes à payer, qui les insulte, qui les dénigre, qui littéralement veulent juste les écraser pour montrer « Votre Dieu vaut rien, notre Dieu il est bon et que vous êtes deux de pique. » Et là, Jonathan se fait donner la victoire. Il ne s'est même pas battu encore. « Monte après moi, car l'Éternel nous donne la victoire. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Celui qui portait ses armes le suivit. Fait que Jonathan, il monte. L'autre, il tient son arme, puis il monte. Ça veut dire qu'il a monté après, parce que c'est plus pesant puis plus difficile. OK? Et là, Jonathan monta en s'aidant des mains et ses pieds. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Donc, Jonathan n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes et il marche vers 20 gars armés qui veulent juste avoir du fun parce que les Israélites, c'est tellement rien. Et il n'a pas d'armes, il est bas, ça doit être malade, méchant film d'action, ça revole partout, puis t'as le gars en arrière qui fait comme... Grosse job, là, tu sais. Il finit le monde. Et là, on a deux gars qui étaient des oufs qui sont rendus des terreurs, des héros, des « qu'est-ce qui se passe? » Deux hommes qui ont cru à Dieu, qui ont connu leur Dieu, qui ont fait confiance à leur Dieu, qui ont voulu faire bouger les choses avec un plan de zouf. J'espère que je n'offense personne avec ce mot-là, j'en ai pris un général, là. Mais un plan qui n'est pas un bon plan. Et Dieu libère son peuple. Ça dit, dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Ce qui veut dire, ils ont détruit le poste avancé. Ils ont probablement tué tout le monde. Et là, ils sont en train d'avancer dans le champ. Deux gars qui avancent dans le champ. Il y en a un qui n'a pas d'arme, là. Ils vous battent. On va vous avoir. Dieu nous a donné la victoire. Venez-vous-en. Bring it. Go. What's up? Moi, je le vois, là. Je vois deux ados, là. Yo. Je vais vous battre. C'est une blague en passant. Mais l'effroi se répandit au camp. Pas juste au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Un peuple qui est supposé être rien, avec deux gars, viennent de nous clencher une guérison. Avec deux gars, viennent de nous battre, de nous insulter, de nous détruire. Deux gars, il y en a-tu d'autres de même? Leur Dieu, y est-tu si rien que ça? Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Et là, parfois, on a l'idée que Dieu, dans l'Ancien Testament, est un Dieu brusque, méchant et trop juste, puis qui détruit tout le monde. Mais ici, l'Éternel met une terreur dans ses ennemis. Une terreur qui va les pousser à s'enfuir, à s'en aller, et qui va donner une victoire à Israël, un peuple qui détruit Israël. L'Éternel n'est pas un Dieu qui fait juste détruire, il sauve. Et ça, on va le voir dans le reste du texte, parce que les Israélites qui étaient là, cachés, en servitude, détruits probablement par l'adversaire, se lèvent. Regardez bien, là, il y a d'autres points. Il y a eu des répercussions. J'ai oublié d'avancer. L'Éternel sème la terreur chez l'ennemi. Et là, on va voir, les sentinelles de Saül qui étaient à Geba de Benjamin virent que la multitude se dispersait, allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, voyez qui s'est en allé. » Et là, il intercède devant Dieu. Dis-nous si on doit y aller au verset 18, verset 19. « Comme pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours en croissant. Et Saül dit, « Retire ta main, on y va. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils avancèrent jusqu'au lieu du combat. Voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. La confusion était extrême. Donc, on a deux gars. Moi, j'aime ça récapituler. On a deux gars qui se pointent avec un plan, qui n'a pas d'allure. Ils se montrent. Ils se font dire, ils se font insulter. Montez, on va avoir du fun. Ils montent. Ils détruisent tout le monde. J'ai dit détruisent parce que c'est ridicule. Ont une victoire écrasante. Continue de marcher. Ça sème la terreur. Les Philistins sont comme, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Ils commencent à se taper dessus. Parce que c'est ça que ça fait, les hommes. C'est cave. Ils se tapent dessus. Saül entend ça. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Ça, on va voir. C'est le tumulte. C'est le chaos. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, du monde qui ont abandonné, qui ont dit, Dieu ne nous donne pas de victoire. On a perdu ou s'est bien mangé. On va aller avec les Philistins. Eux, quand ils ont vu Jonathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, oh, on a gagné. Viré de bord, backstab. Ça, c'est des bons gars. Non, c'est pas vrai. Mais, voyez-vous, ceux qui étaient parmi le peuple se lèvent. Hey, on peut gagner. On peut être délivré. L'Éternel nous délivre. Ils se battent. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans les montagnes, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Et l'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Ça veut dire qu'ils ont tout gagné. C'est-tu pas une belle histoire? Moi, je l'aime. Et la raison pour laquelle je vous la partage, c'est que je veux qu'on comprenne ensemble que le zèle que Dieu vous donne, un, il est obligatoire. Si dans votre vie, il n'y a pas de zèle. Vous ne vous sentez pas appelé à changer les choses. Vous ne vous sentez pas appelé à partager votre foi. Vous êtes juste comme patoff, lassé. C'est pas normal. Si vous êtes dans le peuple, comme le peuple qui était en servitude, caché dans les champs, j'étais un Hébreu avant, je me cache, c'est pas grave, les Philistins ont gagné.
vais manger un petit peu, t'es un esclave, pas faire de bruit.
C'est pas normal. Je veux aussi qu'on voit comment les petites choses que Dieu peut mettre à cœur dans ta vie, à toi, peut changer tellement de choses. Comment les petites choses que Dieu travaille dans notre vie personnelle peut vraiment faire exploser sa gloire dans notre vie. Puis une explosion, ça fait des ravages. Puis une explosion de gloire, ça fait vraiment beaucoup de ravages. Mais du bon ravage. Je veux qu'on regarde aussi comment parfois, en tant que chrétien, on est passif. Et surtout dans notre situation, on est passif. Et c'est pas une bonne chose. Peut-être que ça fait peur à du monde, mais si vous êtes un chrétien passif, je suis désolé de le dire comme ça, mais vous n'êtes pas un chrétien. Parce qu'un chrétien qui dit « c'est bon pour moi, si tu n'en veux pas, regarde, je te comprends », vous n'êtes pas un chrétien. Je suis désolé, mais vous ne parlez pas comme un chrétien. Vous n'avez pas le droit de dire ça devant Dieu et devant les hommes. Vous devez changer. Comme moi, il faut que je change et que je sois personnellement habité d'un zèle qui va dire la vérité. Parce que si je dis que l'Éternel est bon pour moi, que Dieu m'a sauvé, mais que ce n'est pas pour toi nécessairement, si ça ne t'intéresse pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de compter une belle grosse menterie. Je suis en train de dire à l'ennemi, « T'as gagné. » Je suis en train de dire aux gens, « Oui, oui, t'as raison, tout est vrai. » Tout est beau, tout est correct. On ne rendra pas de jugement devant Dieu. L'Éternel n'est pas un grand Dieu. L'Éternel n'est pas un Dieu glorieux qui va juger les nations. Non. La Bible, là, non, elle ne dit pas nécessairement ça. C'est juste moi qui la comprends comme ça. Est-ce que c'est un bon zèle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on fait ça des fois? Moi, je le fais. Ça m'arrive. Là, je me tape dans la face puis je dis la vérité. C'est une blague. Mais non, on a souvent une passivité qui n'est pas un zèle. On n'agit pas. Moi, je n'agis pas des fois comme un croyant convaincu. Je n'ai pas de zèle. Je suis caché parmi le peuple parce que je ne veux pas perdre ma job, parce que je ne veux pas perdre mes amis, parce que, et que c'est dur de parler de l'Évangile des fois. Mais un zèle va tout changer. Et des répercussions qui peuvent arriver... Si on bouge, si on est habité du zèle, peut vraiment tout changer. J'aimerais qu'on regarde l'exemple de Paul, qui était habité par l'Esprit-Saint, puis des fois, il y avait un plan. Et l'Éternel ne dit pas tout le temps oui à nos plans, juste pour vous montrer comment Dieu peut vous diriger. Et là, c'est l'apôtre Paul, je le sais, l'apôtre Paul, ça peut être exceptionnel. Mais il s'est fait dire, il avait comme but d'aller prêcher la parole en Asie, et puis là, regardez au verset... Six. Après avoir été empêché par l'Esprit-Saint d'annoncer la parole dans l'Asie. Ben là, c'est un bon plan, on va aller annoncer la parole en Asie. L'Éternel dit non, tu vas pas là. OK, d'abord, je vais aller annoncer la parole là-bas. Ils traversèrent la Pyrgie et le pays de Galatie, après être arrivés à Mysie, se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, lui, il dit, moi, je vais aller évangéliser là-bas. Dieu, il dit non. Je vais aller évangéliser là-bas. Dieu, il dit non. Je vais aller évangéliser là-bas. Voyez-vous, je veux dire, il y a un zèle. Je le sais, c'est l'apôtre Paul. Je le sais. Mais l'esprit qui est dans l'apôtre Paul est dans votre vie, est dans ma vie, est dans ta vie. Le même esprit qui pousse l'apôtre Paul à partager l'Évangile, parler de Christ, mort sur la croix pour les péchés du monde, ressuscité pour notre glorification et pour nous donner la vie, pour montrer sa puissance sur la mort, montrer la délivrance qu'on a. Il se fait dire non deux fois. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien leur apparut, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine un zèle. Je vous montre ces versets-là juste pour vous montrer que oui, dans l'Ancien Testament, il y a une connaissance de Dieu. Oui, il y a un but, il y a un zèle. C'était pour une victoire, c'était pour la guerre. Moi, en tant qu'homme, je comprends ça. Une batte, pas de trouble. partager l'Évangile, est-ce que j'ai le même zèle? C'est un combat qui est tellement plus dur, qui est plus profond, qui est ancré dans l'âme. Et le zèle aussi peut nous amener dans certaines difficultés, comme une manette qui ne marche pas. Dans Philippiens chapitre 1, versets 12 et 13, « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Un zèle tellement intense que parce qu'il a partagé l'Évangile, bon, on va te mettre en prison. Tu nous énerves. Parce que son zèle allait contre les temples. Son zèle allait contre la corruption. Il y en avait dans son temps, oui. Son zèle était contagieux. Son zèle poussait les gens à quitter les temples, moins d'argent. Poussait les gens à mettre leur vie droit, une seule femme. S'occuper de leur famille, moins de travail, moins de troubles. Mais ça, c'est pas bon pour l'État. L'État, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit corrompu, qu'on dépense, qu'on aille vers la volupté, qu'on aille vers le luxe, qu'on court après tout ça. Mais l'Évangile partagé de la bonne façon, qui change un cœur, qui change une vie, tout ça, c'est du vent, c'est de la boue. Qui entre vous vendrait sa maison pour acheter une fosse à Purin? Qui ferait ça? Levez la main, je veux vous parler. OK, personne ne va faire ça. Ah, moi, je vends ma maison, je vais aller m'installer dans une fosse à fumier. Personne ne veut faire ça. Mais c'est ce que la parole de Dieu, d'une façon extrême, là, nous dit. Tout ce que tu courais après, tout ce que tu voulais, tout ce que tu es sans Dieu, ça vaut rien. Je pense que je l'ai trop tassé. Ça vaut rien. C'est de la boue, puis ça peut même être du purin. Ça vaut rien. Puis pourtant, surtout quand on est dans un pays riche comme aujourd'hui, surtout nous, vous, moi, ta vie, ma vie, notre vie, tout le monde ici, là, c'est tellement facile de s'accrocher à quelque chose puis de ne pas le lâcher. Puis de dire, oui, oui, je te glorifie, Seigneur. Oui, oui, je te glorifie, Seigneur. Je viens à l'église. Oui, 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 oui. Je parle de toi quand ça me tente. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais en même temps, je vais être un petit peu croche à ma job parce que mon boss m'oblige. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais des fois, je vais faire des petites passe-passe parce que j'ai besoin d'argent. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais en même temps, je vais négliger ma famille parce que c'est bien important d'avoir plus d'argent. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais en même temps, je me suis acheté une nouvelle maison, puis elle coûte cher, fait que là, ben, je vais travailler plus. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais dans le fond, je vais passer tout le temps libre que j'ai à travailler dans l'église. Mais le reste du temps, demande-moi-en pas trop. Oui, Seigneur, je te glorifie, mais mettez donc ce que vous voulez. C'est le zèle qui habite trop souvent nos vies. Quoi travailler dans notre vie? C'est bien beau parler de ça, de la motivation, du zèle que Dieu donne. Comment est-ce qu'on peut travailler dans notre vie pour arriver à avoir un meilleur zèle, un plus grand zèle, un zèle profond, quelque chose qui va vraiment changer le cœur d'une personne? Et ça commence par la connaissance de mon Dieu. Qui est satisfait de sa connaissance de Dieu? Qui travaille tous les jours pour augmenter sa connaissance de Dieu? Pourtant, si vous ne connaissez pas votre Dieu, si je ne connais pas mon Dieu, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas t'approcher de lui convenablement. Tu ne peux pas savoir quoi demander si tu ne connais pas ton Dieu. Et là, j'entends tellement de croyants, et si le chapeau vous fait, mettez-le, mais ce n'est pas le but de pointer personne, qui vont prier quelque chose comme suivant. « Ah, Seigneur, si c'est ta volonté, fais ça. Si c'est ta volonté, Seigneur, fais ça. » Là, je leur demande, « Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? » « Oh, je ne sais pas. Mais j'essaye des affaires. Si. 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 Peut-être. Oui, peut-être si. Mais là, je leur demande, qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Ah, ben, c'est l'amour. Ah, faut pas que je pêche. Ah, c'est, faut que j'aie des enfants. Je vais te dire ça. C'est que je viens à l'église. Oui, c'est que je donne ma dîme. Oui, c'est qu'est-ce que ma connaissance de Dieu m'apprend sur lui. Et c'est ce qu'on doit travailler. On doit faire comme Paul, quand il enseignait aux chrétiens d'une ville que je ne me souviens plus le nom parce que je suis en avant. Chaque fois qu'il leur parlait, ils ouvraient leur Bible et allaient voir. Adama, comment il s'appelait? Quoi? Béré, c'est ça. Il faut faire comme eux. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, ouvrir la parole, allez voir. Quand quelqu'un vous parle d'un verset biblique, ouvrez-le, allez vérifier. Avoir une connaissance de Dieu, chercher Dieu, soir, matin, nuit, jour, à votre job, tout le temps, avoir le Seigneur dans nos pensées. Notre connaissance de Dieu. Et pas juste dans nos pensées, parce que parfois, on vit quelque chose qu'on pense parce qu'on a toujours pensé ça. On a appris quelque chose à l'école du dimanche, et puis là, toute notre vie, on pense que c'est ça. Mais c'est une vérité qu'on a effleuré la surface parce qu'on avait 4 ans, ou 5 ans, ou 8 ans, ou 10 ans. Et puis là, moi, je prends ça pour du cash, puis j'avance. Mais la vérité va plus profondément. Dieu aime tout le monde et veut que tous soient sauvés. Fait que là, moi, je prends ça pour du cash, parce que c'est vrai, mais je ne vais pas voir le jugement. Je ne vais pas voir vraiment son amour de Dieu, comment est-ce qu'elle est manifestée dans ma vie, comment est-ce que je peux la manifester aux gens, comment est-ce que je peux la vivre dans ma vie, comment c'est important que moi, en tant que mari, je m'occupe de ma femme, comme Dieu s'occupe de l'Église, comme moi, comme les femmes, il faut qu'ils s'occupent de leur mari, comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que, quand j'ouvre ma Bible, quand j'ouvre la parole de Dieu, je peux me délecter d'une connaissance plus grande que moi? Je peux avoir une relation avec Dieu, une connaissance qui va changer ma vie. Vous savez, tous vos jeunes qui sont au secondaire, au cégep, se font rentrer dans le crâne que les chrétiens, c'est une bande de totons, niaiseux, pas aucunement intelligents parce qu'ils croient que Dieu a créé le monde. Et là, ils se font sortir plein de théories, puis ils se font dire que c'est vrai. Puis là, on commence à parler. « Ouais, mais le scientifique, il a dit ça, puis là, il a trouvé ça, puis là, il y a un fossile de 42 millions d'années, puis là, la Bible dit pas ça. Puis... » Et puis là, on leur a appris une chose. Jean 3,16. « Va te battre, les grands. » Bonne chance. Ma connaissance. Et puis là, c'est personnel. Il y en a qui n'ont pas besoin de beaucoup de connaissances, puis qui vont être zélés, qui vont la partager. Si moi, j'apprends quelque chose à Caleb, là, il y a 4 ans, là, si j'y apprends quelque chose, là, il va aller vous le conter à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même si vous êtes un à côté de l'autre pendant qu'il vous le dit, il va le dire à Lucie, il va le dire à Esther, il va le dire à Mick, il va le dire à tout. Vous êtes tous assis, là, ils vont monter en avant, ils vont tous vous pointer. « Oui, j'ai appris ça, oui, j'ai appris ça. » Ça, c'est une connaissance pour un enfant, quelqu'un qui a une petite connaissance, qui veut la partager à tout le monde. Il a appris à attacher ses souliers, me l'a montré. Chaque fois qu'il les attache, il faut qu'il me le montre. C'est important. Puis c'est bon. Mais ma femme, elle ne fait pas ça. Elle ne va pas raconter... elle ne va pas raconter à tout le monde. Si vous êtes deux à l'écouter, elle ne racontera pas à toi, puis à toi. Mais c'est des stages différents. Mais le but, c'est que Caleb ne reste pas un enfant. Il y a une croissance. Et puis, il y a un zèle d'apprendre au début. Il veut tout apprendre. Il veut tout essayer. Puis, à un moment donné, je l'ai déjà lu. Les chrétiens ont fait ça souvent. Je l'ai déjà lu, cette histoire-là. Je la connais. Oui. Pierre a marché sur l'eau. Quoi? Pierre a marché sur l'eau? Moi, je ne sais pas. En tout cas... Connaissance de Dieu, c'est important de la développer. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de Dieu, vous allez peut-être adorer Dieu d'une façon qui est complètement inutile et superflue. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que vous êtes un pécheur, mais ça veut dire que vous allez stagner, vous allez rester là. Puis là, vous allez vouloir faire plus, mais ça ne marchera pas, parce que vous n'allez pas être capable de voir ces choses-là. Vous allez penser que c'est correct de vivre ma petite vie. Puis tout. Mais dans le fond, Dieu veut qu'on change, qu'on sorte, qu'on bouge, qu'on avance. Un zèle qui vient. Pensez-vous que Jonathan, il voulait vivre sa petite vie tranquille avec son épée et son chum? Non. Il voulait délivrer le peuple. Et puis nous, on veut, j'espère en tant que croyant, partager la parole, que nos familles soient sauvées, que nos familles aiment Dieu, que nos amis puissent être sauvés, que notre boss puisse arrêter d'être un boss puis devienne un croyant. Non? OK. Moi, oui. Et ça, c'est le premier point. Si je connais Dieu, ça, ça va être imprégné dans ma vie. Deuxième point qu'il faut travailler, notre vie de prière.
Oui, je l'ai dit. Notre vie de prière.
Et j'aimerais vous faire une citation. J'aimerais qu'on comprenne que la vraie puissance du croyant ne commence pas ici, le dimanche matin. Ce n'est pas moi qui l'ai en avant quand je partage la parole. La vraie puissance de Dieu commence dans votre lieu de prière. La vraie puissance de Dieu dans votre vie qui va vous transformer, c'est dans votre vie de prière. Combien d'entre nous, pendant qu'on prie, on est devant Dieu? Seigneur, sonde-moi! Puis là, il nous montre un péché. Puis là, il faut travailler. Puis là, moi, en tout cas, là, il faut que je travaille. Puis ça fait mal. Puis je travaille. Puis je pleure. Puis je crie à Dieu, sauve-moi! Je ne suis pas capable! Sauve-moi! Transforme-moi! Que ma femme le voie! Si je pense que j'ai été transformé puis ma femme ne le voit pas, ça ne vaut rien! C'est pareil comme si je parlais à quelqu'un. Puis là, sa femme s'en va et dit, moi, vous savez, ça fait un an, je n'ai pas péché. Pourquoi tu as attendu que ta femme parte avant de me dire ça? Parce qu'elle, elle sait. Puis si tu penses qu'elle ne sait pas, elle sait. OK? Et puis c'est ça, la vie de prière, la vraie vie de prière, c'est pas de venir puis de prendre la liste, là, de l'ouvrir puis de faire, bon, alors j'aimerais prier pour les malades, je vais faire une liste de noms. Alors j'aimerais aussi prier pour tous les croyants du monde. J'aimerais aussi que Dieu sauve des chrétiens en Inde. J'aimerais... Oui, on peut le faire. Mais si je commence par ça, puis que ma vie de prière reste en surface, on ne sera pas bien transformé. On a tous des luttes. J'ai des luttes. Tu as des luttes. Toi aussi, vous aussi, tout le monde. Si on ne les dépose pas au pied de la croix, jamais on va grandir. Jamais on va avoir un zèle. Jamais on va être comme Jonathan. OK, il y a une armée qui me déteste, qui ne veut rien savoir de Dieu. Je suis là. Venez-vous-en, on va gagner. Jamais je vais pouvoir prendre les portes. Jamais je vais pouvoir grandir. Et pourtant, c'est ce qu'on doit tous aspirer à faire. C'est ce que moi, je dois aspirer à faire. Et c'est ce qui est extrêmement difficile. On arrive dans des situations dans notre vie. Je peux vous donner un exemple dans ma vie. Je travaille 50 heures semaine. J'arrive chez nous. Mes enfants, des fois, je les vois 5 minutes. Ils viennent me voir, ils me font un câlin, brossent les dents, font un petit dodo, donnent un bisou, coucher. Et ça m'a fait ça pendant 2 semaines d'affilée. Ma fille a commencé à parler. Elle vient me voir, elle dit, « Papa, je t'aime. » Puis elle me fait un câlin. J'ai manqué ça. Hé, 2 semaines. Sarah, dehors, ça fait 2-3 jours qu'elle fait ça. Quoi? Quoi? Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Ça me brise le cœur. Je l'ai entendu, c'est merveilleux. C'est malade. J'ai aimé ça. Mais là, avec Dieu, des fois, dans ma vie, j'ai pas le temps, c'est trop dur. Ma vie de prière se résume à « Seigneur, j'ai une journée qui commence, elle va être dure, aide-moi, amen. » Je continue. Là, il arrive une situation. « Seigneur, je suis fâché, aide-moi, amen. » Là, c'est pas, il n'y a pas rien. C'est et c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est un zèle qui doit habiter chacun de nous. Si vous pensez être un chrétien et pas prier, ça ne marche pas. C'est comme un guerrier qui ne se pratique pas. T'sais, combien de fois par semaine un gars de l'armée se pratique à tirer? Zach? Plusieurs fois par semaine. OK? Tu sais, quand vous regardez un film, le gars, il défait son gun au complet, là, il l'huile au complet, puis il le remonte, ça prend 30 secondes, il connaît par cœur. Qui peut dire ça de sa Bible? Qui, quand il rencontre un problème, peut dire ça de sa Bible? Qui, quand il n'est pas capable de trouver la réponse, tombe à genoux puis demande à Dieu, implore Dieu de lui montrer quelque chose, réanime mon zèle, aide-moi, fortifie-moi, protège-moi. Et ces deux points-là vont être avec le dernier, ma marche de tous les jours. Oui, oui, Jonathan a dit, on va se montrer. Si Dieu nous donne la victoire, s'il dit monter vers nous, Dieu nous donne la victoire. On l'a déjà, c'est accompli, on fonce. Puis là, ils ont dit, ah, montez vers nous. Probablement en Philistin, c'était comme, Mais là, c'était montez vers nous, on va y aller. Puis là, il a pas gelé, il a pas fait comme ouh.
J'ai une porte. Bon, ça fait 2 mois que je prie là-dessus. Il doit être temps, mais là, j'ai peut-être pas assez prié. Je suis peut-être pas prêt. Je connais pas assez ma Bible. Si jamais il me parle de l'avortement, je suis dans le trouble. Ah non, s'il me parle de Dieu, mais là, s'il est musulman, je ne suis pas équipé. Là, c'est Dieu t'aime. C'est vrai? Ma marche, comment je vais réagir face à une situation difficile? Comment je vais réagir devant une question difficile? Ça commence comment je vais agir devant mes enfants, si vous en avez. Comment je réagis devant mes enfants? Qu'est-ce que je montre à mes enfants? Ce que je montre à mes enfants, l'important à mes enfants, c'est de travailler. OK? Travailler, faites de l'argent, vous allez être safe, vous allez être correct dans la vie, puis quand vous avez du temps, vous allez à l'église. Non? Vive le Québec libre? Non. Combien de fois par jour est-ce que je prie pour mes enfants? Combien de fois par semaine je prends le temps d'aller les border? Leur lire une histoire, prier avec eux, leur apprendre à aimer Dieu, leur apprendre à développer quelque chose avec Dieu. Je parle de vos enfants parce que j'en ai plein des ados que je vois, puis il y en a qui connaissent leur Bible, puis il y en a qui sont comme
« OK, wow, je ne connais pas ça. »
Il y en a plein. Et dans la marche, parfois c'est bien.
J'ai jamais vu mes parents lire. Oh, mes parents, ils sacquent tout le temps. Pas grave. Oh, c'est correct, des fois, de lever le coude un peu trop. Pas grave. Ah, ben, tu sais, des fois, tu fais des petites passes croche-croche. Là. On est plus lousse à la fin du mois.
Ma marche! Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que dans ta vie, tu vas laisser ces choses-là arriver? Ça va tuer ton zèle. Et puis là, il y a plein de choses que je viens de nommer qui tuent le zèle. Mais il y a plein de choses qui peuvent le ranimer. Ici, ce matin, j'espère que je ne vous déprime pas. Mais ça se peut. Mais je vous encourage à ouvrir votre Bible. Allez trouver la parole de Dieu. Vous savez, dans le temps d'un Samuel, là, il y avait Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Peut-être Juge, je ne suis pas sûr. Puis peut-être Job. Commence les psaumes. Il y en avait probablement une avec l'Arche de l'Alliance. Bonne chance de connaître ton Dieu. Comment tu fais? Comment il faisait pour connaître son Dieu? Il cherchait, il l'implorait, il allait au temple, il parlait avec les prophètes, parlait avec des hommes. Le roi se devait de connaître la Bible, de l'avoir transcrit. Qui a transcrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Prends sa Bible et copiez-le. C'était dans la loi, c'était obligatoire. Le roi devait faire ça. Lui connaissait son Dieu, il avait pris le temps de le connaître. Il avait pris le temps d'apprendre les promesses de Dieu et il était zélé. L'Éternel nous donne la victoire, nous a promis une délivrance, il vous promet une délivrance, te promet une délivrance dans ta vie. La même chose qu'il promet à Israël, il promet aux croyants. Tu as un péché dans ta vie, bats-toi! Tu as une lutte, tu as un ami qui souffre, bats-toi, tombe à genoux, prie, implore, demande-lui, puis à chaque fois que tu le vois, tente la porte. Seigneur, s'il m'ouvre la porte, je fonce. Même si je parle en allemand, c'est pas grave. Fonce. Ouvre la porte, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux. Puis dans l'église, ça peut être n'importe quoi. J'ai un frère qui lutte, je vais prier pour lui. Je me réveille au milieu de la nuit, je vais prier pour mon frère, je vais chercher, je vais marcher. Quand il arrive une bad luck à la job, je vais avoir une belle attitude. Je vais avoir une belle réaction. Quand quelqu'un me fait du tort, je vais aller le voir, je vais parler, je vais régler les choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut que je sois en paix avec tous les hommes comme c'est possible. Ma marche va refléter ma croyance, ma connaissance de Dieu et ma vie de prière. Suis-je un instrument de Dieu que Dieu utilise pour encourager et motiver ses frères par mon zèle ou suis-je utilisé par l'ennemi pour corrompre et décourager mes frères?
Il y a plein de croyants qui le font, ça doit être correct. J'ai entendu ça souvent. Plein de croyants qui le font, ça ne doit pas être grave.
Qu'est-ce que je réponds à ça? Oui, mais la Bible dit, oui, mais les croyants le font. Regarde, j'en connais plein des croyants, là. C'est beau. Et puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On tombe à genoux, on prie, on implore. Est-ce qu'on est animé d'un zèle? Est-ce qu'on veut retrouver ce zèle-là? J'espère que oui. Prions, connaissons Dieu. Apprenez les versets par cœur. Hein? Caractère en construction, on apprend la Bible. On apprend les versets. Si quelqu'un, si tu te fais mettre en prison puis qu'on brûle ta Bible, combien de versets tu vas te souvenir? Ça peut frapper, des fois, il n'en reste pas gros. Combien de versets tu te souviens si je brûle ta Bible? Peut-être pas assez. Hein? Si je t'arrache la langue parce que je suis tanné de t'entendre, combien est-ce que tu vas être capable de prier? Est-ce que tu es capable d'intercéder pour celui qui te frappe? Est-ce que tu es capable de bouger? Est-ce que tu es capable de voir un zèle pur pour l'Éternel? Par amour pour les non-croyants. C'est dur. Je trouve ça très difficile. Mais par une vie de prière, par la recherche intense de Dieu, par son amour déversé dans nos cœurs, on est capable d'arriver à quelque chose. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi animé d'un zèle pur. On veut te demander de mettre ta main sur nous, Seigneur, afin que le plan que tu mets dans nos cœurs puisse germer, que tu puisses nous appeler à avoir une conscience pure, une marche saine, une vie de prière dédiée. Seigneur, que tu nous appelles à faire grandir notre connaissance de toi. Seigneur, anime-nous d'un zèle comme tu as animé Jonathan, qui s'est présenté avec un plan parfois un peu stupide, mais qui avait confiance en toi. Dans nos vies, Seigneur, si on a des plans qui peuvent paraître stupides, des objectifs pour toi qu'on accepte, qu'on n'arrive pas à faire, Seigneur, parce qu'on est bloqué, parce qu'on a peur, parce qu'on manque de zèle, Seigneur, délivre-nous de ce qui nous empêche d'avancer. Fais que chacun d'entre nous, on comprenne l'importance de notre vie pour toi, l'importance de notre vie de prière, l'importance de notre communion. Seigneur, qu'on puisse vraiment, chacun d'entre nous, être libéré par ta parole et ta puissance. Seigneur, tu nous aides, tu nous appelles à toi. Et constamment, tu nous équipes. Aide-nous, Seigneur, à ne pas négliger les dons que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à toujours te chercher. Aide-nous, Seigneur, à toujours t'aimer. Attire-nous à toi, Seigneur, par ta puissance et par ta parole. Amen.